Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir JB, c'était l'entrée la plus originale de l'histoire. Est-ce que ça va?
Ouais, ça va très bien.
Tranquille, tu viens d'arriver?
Non.
Eh ben,
j'ai écouté.
On a pris un peu de retard.
Intéressante que t'as écouté, que t'as raconté juste avant.
On a eu des problèmes en plus en début d'émission, de réseau, tout
si,
ça, c'est nagé.
Si, si t'as besoin d'aide en réseau, tu sais, je suis assez fort. Hein.
Ben,
la prochaine fois, tu peux venir avant. Hein.
On s'est dit, Mathieu reçoit un de ses potes experts réseau. Et à toi, à nous tous, on devrait pouvoir arriver à régler cette émission. mais il faut juste qu'on ait un système de fallback en fait.
En fait, t'as la 5G, j'ai testé. Hein, t'as 250 mégas de download en 5G et à peu près 75 en upload.
Donc, en upload, d'accord.
Ici, dans ton studio.
Tu vas résilier ta fibre, je crois.
Ouais. Non, mais
c'est le fallback au moins.
Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. On n'a pas de fibre, on est. Bref, on est en coaxial.
Ah mince, ok.
C'est
décidément.
Ouais.
Non, pas de chance,
c'est l'enfer. On a un don pour choisir vraiment. Tu prends toutes les quartiers parisiens. Il y a un pâté de maisons où il y a pas la fibre. Ben,
en fait, t'as pas déployé ta propre fibre.
Parce que ça coûte cher.
Abonnez-vous, bien sûr.
Bon, vas-y, t'y vas. tu ouvres les égouts, tu passes ton truc, non? C'est pas comme ça que ça marche?
Bah, moi je veux bien, mais montre-moi.
Non, j'ai jamais descendu dans les égouts de Paris.
Si, j'ai déjà, mais je savais pas que tu pouvais genre tirer ta fibre.
Ah non, t'as pas le droit, mais c'est parce que t'as pas le droit qu'il faut pas le faire.
Écoute, on fera des tutos installation de fibre ensemble après.
Ouais, quand tu veux.
Alors, juste pour info, les petites règles du jeu, tu as tes petits de quoi boire, de quoi manger ici, et c'est bien des micros de podcast, donc en vrai, tu peux te le prendre et te le manger vraiment tout près.
Traditionnel.
Exactement. Et sans plus attendre, ça c'est de l'eau, exactement. C'est ah non, c'est vide. Quelqu'un peut aller nous amener un peu d'eau pour notre pauvre ami desséché. Merci Zil. Et comme je l'ai expliqué en introduction, on va profiter de ta présence pour parler de deux sujets qui nous intéressent particulièrement. Et le premier a rapport avec notre dernière sortie. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo.
Moi, j'ai...
Trop bien. Bah, génial. J'ai même pas à la résumer. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, c'était une vidéo qui traitait justement de téléchargement illégal et des risques associés. En réalité, c'était un peu un prétexte pour parler de différents types de vulnérabilités, notamment de tout ce qui se passe d'un point de vue bas niveau, dans des attaques de type buffer overflow, etc. On va essayer ce soir de rester, de pas trop rentrer dans la technique, enfin dans le sens où notre ami ici est le représentant de tous les membres du chat qui ne sont pas des développeurs aguerris.
Je vous arrêterai si ça
exactement
va trop loin.
Et donc, il faut qu'on essaye de vulgariser.
C'est super, j'ai des histoires. Je vais te parler d'histoires, je vais pas parfait te parler trop de technique. Je pense que j'ai essayé de faire moins technique la dernière fois.
C'est parfait, trop bien. Voilà, comme j'expliquais, pour réaliser ma dernière vidéo sur le MiCode, le téléchargement illégal cache-t-il vraiment des virus? Je me suis plongé dans le fonctionnement d'un player vidéo. Vous l'avez peut-être vu. Et lors de mes recherches, j'ai découvert que des logiciels comme VLC, déployés dans le monde entier, possèdent en réalité un certain nombre de failles ou possédaient. Failles qui intéressent les hackers, mais aussi des agences d'espionnage. Je spoil, mais on reviendra dessus après. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau Jean-Baptiste Kempf, co-créateur de VLC, pour parler des anecdotes les plus folles que tu as vécues pendant la vie de ce projet. Avant de rentrer dans le croustillant, est-ce qu'on pourrait commencer avec une explication de pourquoi c'est dur de sécuriser un logiciel comme un player vidéo et qu'est-ce qui explique que quand tu vas sur la liste des vulnérabilités de VLC, eh ben, il y en a. Il y en a moins qu'ailleurs.
Il y en a moins qu'ailleurs.
En vrai, il y en a moins qu'ailleurs.
Mais en fait, si tu regardes, il y a une faille hyper intéressante qui est arrivée l'autre fois, qui était sur Chrome. Et c'était la faille sur LibWebP, qui est donc le format d'image. Et en fait, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est compression vidéo, comme on a déjà parlé dans les précédentes émissions, en fait, tu compresses et t'enlèves toutes les données qui ne servent à rien. Résultat, il n'y a quasiment plus aucune donnée redondante puisqu'on a compressé au maximum. Et donc, en fait, tu dois faire confiance aux données qu'il y a dans la vidéo. Par exemple, tu dis, bah, la vidéo, c'est une vidéo qui fait 1 million de pixels de large et 1 million de pixels de haut. Et si tu réfléchis pas, bah en fait, tu fais 1 million × 1 million, et puis bah tu alloues cette zone de mémoire. Évidemment, tu sors des trucs de mémoire
autorisés,
possibles, et donc en fait, tu fais un integer overflow. Et donc, tu t'écris ailleurs. Et puis après, bah, tu vas lire. Mais donc, tu as alloué un espace de mémoire qui est beaucoup trop petit, parce qu'en fait, tu as overflow. Donc, au lieu de faire un truc de, bah, évidemment, de 10 milliards, ce qui n'est pas possible en 32 bits, tu fais un truc de 5 octets, quoi, ou 10 octets. Et donc, par contre, tu continues à écrire. Tu vois, tu décompresses. Et donc, tu écris en dehors de ta zone mémoire.
OK, donc en fait, ça vient du fait que... comme t'as compressé, t'es obligé de faire confiance à tout ce qui est écrit.
Exactement.
Donc si on te dit...
Et si tu fais pas attention, en fait, c'est le problème de tout ce qu'on appelle des parseurs, globalement, c'est que tu prends des données qui sont envoyées par Internet et tu fais confiance. Or, il ne faut jamais faire confiance. Et en fait, bah, tu dis, oh bah tiens, il me demande 1 million × 1 million, oh, ok, j'y vais. Alors qu'en fait, tu devrais dire, non, non, attends, là, normalement, la spécification, elle ne me permet pas d'être au-delà de ça et de ça, etc. Mm. Donc en fait, le premier problème, c'est qu'écrire des parseurs, c'est difficile. Il y a des langages qui font des très bons parseurs. Mais, comme on a déjà parlé, en multimédia, tu dois aller vite. J'ai 16 millisecondes pour afficher une fraise, j'en ai 16, j'en ai pas 17. Mmh. Bon, c'était déjà la discussion de la fois d'avant. Et donc, bah, t'écris en langage de bas niveau. Et donc, t'écris en C. Ou, dans le cas de David, t'écris en assembleur. Et donc, en fait, tu perds tous les petits checks de sécurité des langages, notamment un des langages qui est fait pour écrire des parseurs de façon sécurisée, s'appelle le Rust. Mais nous, bah non. Et puis surtout, on l'écrit en C, voire en assembleur. Alors maintenant, tu vas me dire, ouais, bah d'accord, mais on sait faire des choses, on sait. Oui, c'est vrai. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur FFmpeg ou sur VLC qui ont été écrites dans la fin des années 90, début des années 2000. Et ouais, on était quand même beaucoup plus cool, on faisait quand même beaucoup plus confiance, mais surtout, on savait moins utiliser les failles de sécurité.
Et donc, en fait, de par la taille du projet, qu'en fait, VLC, c'est un truc énorme.
C'est monstrueux. En fait, quand tu compares le VLC plus toutes les dépendances, on passe de 15 millions de lignes de code en C et en C++, c'est monstrueux.
Et donc, l'idée qu'on va tout réécrire en Rust, par exemple, pour que ce soit assez bon, qu'il n'y ait plus de failles de sécurité.
Ça n'arrivera jamais.
Voilà.
Et en fait, tu vois, c'est le truc que j'ai cet email toutes les semaines. Pourquoi vous avez écrit David, dont on a parlé, en Rust? En C et pas en Rust. Et je suis, ça ne sert à rien. 98% du temps d'exécution, il est fait en assembleur. Donc même si tu le fais, tu vas rien régler comme problème.
Est-ce que, juste pour que les gens aient peut-être d'autres équivalents, tu as mentionné le mot de parseur. Est-ce qu'il y a des trucs que les gens utilisent dans la vie tous les jours, qui utilisent en fait derrière des parseurs? À part la vidéo, on a donné un exemple, c'est décoder de la vidéo.
Tout fichier texte, quoi. Par exemple, Word, tous les formats Word, ton format de Photoshop, les PDF. Un des endroits où il y a eu le plus de failles de sécurité, et souvent pas reporté, c'est le PDF. Le PDF, c'est un des pires formats au monde. Je sais pas si tu regardes un jour, c'est un truc, mais genre, c'est un des pires gloubi-boulga, du pire du multimédia et du pire du format Photoshop. Photoshop, un jour, tu liras ça, je pense, tu lis la description, tu crois que c'est une blague tellement c'est n'importe quoi. Et le PDF, c'est n'importe quoi au carré, quoi. Donc c'est vraiment... Voilà, donc les PDF, tous les documents qui sont en format binaire, il faut les lire, quoi. Il faut lire les informations. Donc c'est tout ce que tu vois.
Donc le parseur, c'est ce qui transforme mon fichier Word en texte qui est en gras ou en italique ou avec une image ou voilà qui fait.
Exactement. Et il y a beaucoup de ces formats en fait. Par exemple, le format MP4, c'est le format qui vient du Move, qui date de la fin des années 90 de Apple, qui vient de QuickTime début des années 90. Et dans ces cas-là, en fait, tu réfléchissais pas vraiment à la sécurité. De toute façon, tout le monde était gentil. Il y avait 10 mecs sur Internet, quoi. Et donc, tu t'es jamais vraiment posé ce problème. Et par exemple, Chrome. Et peut-être, c'est peut-être les gens qui ont fait le plus de travail sur la sécurité, mais quand tu regardes la liste des failles de sécurité dans Chrome, c'est monstrueux. Et pourtant, Google a quand même les gens qui ont mis le plus de trucs sur la sécurité des parseurs, et il y a quand même une faille de sécurité là sur la libwp, qui est donc un des formats d'image écrit chez Google, et la faille, elle est faille de sécurité critique, et elle a appliqué toutes les applications, toutes celles qui sont basées en Electron, à tout ce qui les gère.
Elle est sortie quand, celle-là?
C'était il y a un mois et demi, deux mois.
Ah ouais, sérieux?
Tu sous-entends que là, si j'ouvre une image WebP sur Chrome, là, je peux avoir des problèmes de sécurité.
Ah mais c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, tu pouvais recevoir juste un SMS sur ton Android, si tu as la prévisualisation...
Oui, qui est en HTML, du coup.
Bim. Donc t'envoies un SMS à quelqu'un, bim, il s'est fait pirater.
Ah ouais?
Ok. tu suggères quel navigateur, du coup?
Mais en fait, Chrome a fait énormément de travail. Mais en fait, le processing d'images et de vidéos, c'est quelque chose qui est absolument partout, en fait. Et donc, il y a plein... Et surtout, en particulier, il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment fait leur travail correctement. Je ne veux pas du tout parler des gens d'Android ou d'iOS. Mais ils font beaucoup trop de choses automatiquement. Et en particulier, sur Android, il y avait une... Nous, on a remonté pas mal de failles de sécurité, mais il y a pas mal de sécurité dans le média serveur d'Android qui, automatiquement, dès que tu mettais un fichier, se mettait à le parser. Et puis, si c'était un fichier qui était un peu corrompu, donc là, c'était un cas MKV, le média serveur est redémarré. Et donc, en fait, tu fais une sorte de denial of service de ton téléphone.
Avec un fichier qui était cassé, quoi.
Tout à fait.
Et donc là, parce que juste pour rester sur cette faille, parce qu'en fait, on n'en a pas jamais parlé de cette faille. Donc ça vaut le coup de s'arrêter. Le pire, c'est que si ça concerne Chrome, comme tu l'expliquais, ça ne concerne pas que Chrome, en fait. Parce que
ça concerne Electron.
Exactement. Quand on dit Chrome, on pense à la petite icône là.
Donc là, ça veut dire Steam, ça veut dire Discord, ça veut dire tout Chrome et Brave et Edge et quasiment la plupart des applis.
Des web puisqu'en fait, même si tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, Chrome est partout, ou plutôt le moteur de Chrome est utilisé absolument partout. OBS également, effectivement. Bref, tous les sites qui ressemblent, enfin, toutes les applications qui ressemble beaucoup à leur version en site web, en général, c'est que c'est une version Electron, donc il y a Chrome derrière. C'est un peu flippant, cette histoire.
Non.
On pourrait se dire, mais comment c'est possible? Attends,
comment
Google,
on peut tomber sur cette image
C'est Google, attends, VLC, c'est quand même JB derrière. Comment c'est possible?
Alors d'abord la plupart, parce que en fait, c'est très difficile. On fait des projets qui sont vraiment très, très techniques. Et les technos qu'on utilise, c'est des technos des années 70. Hein. Le C, c'est un langage des années 70. Tu vois. Et c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'on réfléchit à faire du Rust et des choses comme ça. Et tu arrives avec un bagage monstrueux. Et parce que tu as besoin de performance. Et donc, en fait, de toute façon, on construit des trucs au-dessus de trucs, au-dessus de trucs, au-dessus de trucs, au-dessus de trucs. Tu vois, une application genre Discord, qui a un truc au-dessus d'un site web qui appelle Chrome, qui lui se base avec 8743 librairies. Et chaque library, elle a été codée par un. Par exemple, le mainteneur de LibWebP, il était chez Google, il a démissionné de Google et il n'y avait plus personne pour fixer le bug, tu vois. Donc, c'est toujours comme ça.
Et surtout, je pense qu'il y a un truc qui peut être un peu contre-intuitif, c'est on se dit, OK. Il y a eu des failles critiques, par exemple, dans VLC. Moi, j'en mentionnais une ou deux. C'était, par exemple, une qui concernait les fichiers MKV, où ça marchait avec un double fichier. Et en gros, tu pouvais avoir une exécution arbitraire de code. Et je parlais d'une autre qui concernait les sous-titres. Et ça peut, intuitivement, on pourrait se dire, non, mais en fait, s'il y a une faille, c'est que c'est du code qui a été écrit par JB derrière son ordi. En fait, ça concerne directement le code de VLC. Mais c'est pas forcément aussi simple que ça, dans le sens où vous interagissez avec aussi des librairies, genre du code écrit par d'autres gens.
Et donc là, en fait, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais en fait, ça va être ma conclusion. C'est qu'en fait, le problème de VLC ou le problème de Chrome, c'est qu'en fait, dans ton process, tu as du code qui tourne, qui n'est pas le tien. Donc, tu peux pas faire confiance. Donc, soit tu audites tout le code, parce que c'est open source et comme VLC, on amène tout le code, mais en fait, parfois, tourne dans ton process le binaire qui est ta carte graphique, le driver de ta carte graphique. Il y a une partie qui est exécutée dans ton binaire. Et quand il crash, de toute façon, toi, t'as pas le code source parce que c'est dans le driver de NVIDIA. Et là, tu fais quoi? Et donc, par exemple, je peux te dire que 80-90% des crashs de VLC, c'est dans les drivers des cartes graphiques.
Et toi, tu peux rien.
Non.
T'as l'enfer. Ouais. Surtout aller à débugger ça, ça doit être horrible. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et des demandes improbables que tu as déjà eues, tu as mentionné le fait que VLC était open source.
Oui.
Est-ce que ça rend pour toi la sécurisation du logiciel et le fait qu'il n'y ait pas trop de failles plus simple ou plus difficile?
Alors, ça a été un débat pendant... C'était un débat pendant 20 ans où les mecs te disaient « Ouais, quand c'est open source, on peut voir plus de bugs et donc, en fait, on peut exploiter les bugs. » Et de l'autre côté, t'avais les gens qui disaient « Bah non, mais c'est pas open source, donc en fait, tu vois rien, donc en fait, t'es pas au courant quand il y a des failles de sécurité. » Globalement, la réponse, c'est « On n'en sait rien. Okay. » C'est à peu près aussi sécurisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit avantage à être open source parce qu'on a développé énormément d'outils d'analyse statique, d'analyse dynamique. Et donc, on voit que c'est plutôt un positif. Mais de toute façon, il faut être très clair, hein. Être open source, ça ne règle pas la paix dans le monde. Hein. Enfin, c'est une autre façon de développer, c'est une façon qui est, à mon avis, plus éthique. Ça ne règle pas tous tes problèmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notamment avec tous les outils d'analyse qu'on a, et notamment plein de gens qui viennent analyser ton code, avec des gens qui ont beaucoup de moyens, je pense que c'est un vrai bénéfice.
Est-ce que, par exemple, tu as déjà eu des cas où des gens ont essayé de tirer profit du fait que c'était open source pour cacher des failles ou des bugs intentionnellement dans le code?
Alors, je pense que oui. Je pense que ça m'est arrivé deux fois. Une fois sur VLC, une fois sur un autre projet open source.
Et comment tu peux savoir?
Tu peux pas savoir.
c'est dingue.
Le nom du contributeur, là.
Oui, ouais. Parce que... Et ça s'est passé comment?
Bon, il y a un contributeur qui avait contribué mais depuis quelques mois, des petits patchs. Il envoie un patch qui est un peu plus conséquent et ça m'a fait tiquer. Et j'ai regardé et j'ai fait, mais t'es sûr que tu fais ça comme ça? Tu devrais l'architecturer. Et quand j'ai dit, il a fait les trucs, il y avait une partie qui bougeait pas trop, qui était la partie qui me gênait le plus. Et quand j'ai fait la remarque, il est parti.
T'as le temps de regarder tout ce qui passe ou c'est parce que là, t'as trouvé
VLC,
ça bizarre?
Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Je regarde tout ce qui se passe sur VLC. Okay. Mais ça, c'était pas le plus gênant. Il y en a eu d'autres sur d'autres projets open source multimédia. Je vais pas te dire exactement le nom, mais où là, c'était clairement intentionnel.
Oh, c'est badant parce que franchement, ouais. Moi, je me mets à ta place. Tu reçois par exemple, tu reçois une énorme mise à jour, un énorme patch qui vient de quelqu'un qui, en plus, a déjà établi de la confiance avant.
C'est pour ça que, par exemple,
t'as envie de faire confiance, quoi.
Enfin, non. De toute façon, dans VLC, c'est déjà ce que j'ai dit plein de fois. Notre objectif, c'est que en fait, on est hyper relou sur la review de code et la review parce que on ne fait pas confiance aux gens de rester longtemps dans le projet. C'est pas qu'on fait pas confiance aux gens, c'est qu'on sait que statistiquement, j'ai 1000 personnes qui ont bossé sur VLC, il y en a 10 qui restent, j'ai 1% de chance que la personne reste. Donc en fait, ça veut dire à moi qui vais maintenir ton code. Donc je dois le comprendre. Et donc, par exemple, dans VLC, si tu envoies un gros patch, maintenant, c'est direct, non, split ton patch. Mais c'est direct. Il n'y a même pas...
Ok. Donc, c'est moins facile de me cacher.
Mais il y a des projets open source qui sont, par exemple, qui sont des librairies, qui sont des dépendances de VLC, de FFmpeg et de Chrome, qui n'ont pas la taille de VLC et qui n'ont pas les habitudes de travail de sécurité de VLC, parce que nous, on a eu des mauvaises surprises, donc on fait énormément de travail sur la sécurité, qui peut-être ne font pas aussi attention. Et ensuite, elles finissent dans VLC, elles finissent dans FFmpeg, elles finissent dans Chrome, elles finissent dans plein d'autres endroits.
Ça, c'est... En vrai, c'est un peu flippant. Parce qu'on se dit, quand il réfléchit, c'est une super strat. Par exemple, t'aimerais bien avoir sur énormément d'appareils un moyen de prendre, de faire de l'exécution de code à distance, je sais pas, pour faire un petit peu de surveillance, par exemple.
Ouais.
Est-ce que c'est pas la meilleure stratégie de se trouver un petit projet open source
qui
est hyper dépendant et de faire ton patch?
Bien sûr que si.
Littéralement un agent double, tu vois. Tu gagnes la confiance.
Mais je pense qu'il y a d'autres façons. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui j'ai des failles de sécurité à aller chercher, je sais dans quel logiciel je vais aller les chercher.
Dans le sens où tu sais d'avance que ce sera plus probable d'en trouver à certains endroits que d'autres?
Ouais, c'est clair que je vais aller attaquer les projets Adobe, ouais.
Ah, ça va.
C'est évident.
Ah ouais? Parce que ils ont peu de ressources investies en sécurité ou des...
Non, ils en investissent beaucoup, mais par exemple, Adobe Reader, je pense que si tu cherches des failles de sécurité, tu vas là-bas. Hein.
Ça, c'est marrant. Ah, c'est marrant que rien comme ça, avec le nom, tu aies une intuition de...
Ouais, c'est clair.
PDF plus Adobe.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est le PDF en lui-même qui est trop dur à gérer.
Ouais.
Attends, le PDF, ça fait tellement de trucs. Des fois, t'as des images pour imprimer. Ouais,
tu peux avoir de la vidéo dans les PDF.
Ouais, tu peux mettre
tu peux avoir des fichiers 3D dans le PDF.
Ouais, tu peux remplir des formulaires. Il y a même des développeurs iOS qui prennent des icônes, des fois, d'export en PDF pour avoir du vectoriel. Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas comment ça a pu se diversifier autant. Quoi. C'est une cata.
Alors que pour moi, j'ai toujours trouvé ça magique. Parce que c'est l'un des seuls trucs qui... Que tu saves une fois et qui sera toujours imprimé correctement.
Petit côté sale,
c'était inventé à la base, non?
Ouais.
Non, tu n'étais pas d'accord. J'avais compris que c'était l'origine
du format. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était plutôt le ça s'imprime toujours correctement qui me.
Oui.
Ça se voit que tu n'as jamais essayé d'installer un driver HP, là. Ah oui, peut-être chercher les logiciels HP, là, où pour installer une imprimante, tu as besoin de 1 giga de téléchargement, où tu installes 28 caca partout.
C'est vrai.
Est-ce qu'en plus, ce genre de comportement, Tu sais d'avance en fait qu'ils peuvent être faits que par des gens qui ont des ressources? Parce que la plupart dans les... Ce que je veux dire, c'est que...
Non, je suis pas d'accord.
À part des groupes cybercriminels qui ont un certain niveau, qui est d'autre que des agences?
Des chercheurs. Tu vois, par exemple, là, il y a eu dans le multimédia, et d'ailleurs, c'était une des failles de sécurité qu'on a eu dans VLC, que je pense n'est pas exploitable, qui s'appelle H.264 Forge. Okay. C'est quelqu'un qui a justement automatisé la création de faux fichiers H.264.
Okay.
Donc codec, et il a fait péter tous les players, y compris les players sur Android, et que tu ne peux pas remplacer parce que ça fait partie d'Android.
Et donc avec un fichier vidéo, il pouvait exécuter n'importe quoi sur...
Alors attention, tu dis souvent d'exécution, ouais. Il faut que tu fasses hyper gaffe, parce qu'aujourd'hui, une faille de sécurité, ça ne veut pas dire exécution de code. Ouais. Okay, donc
C'est la version, c'est une des versions les plus graves, on va dire, de la
En fait, c'est pas ça, c'est que, par exemple, dans VLC, t'as plein de failles de sécurité. La plupart des failles de sécurité des dernières années de VLC, elles sont pas exploitables. D'accord. En fait, tu as plein de mécanismes de protection, plusieurs, notamment un qui s'appelle ASLR, donc c'est la randomisation de l'espace mémoire. Donc même si tu es capable de savoir que tu as écrit quelque chose, tu ne peux pas jumper dessus, tu ne peux pas aller dans cette zone mémoire, parce qu'il y a eu de l'aléatoire. Donc tu vois, tu as des choses comme ça, tu as tout ce qui s'appelle DEP ou NX, c'est-à-dire que tu as le droit d'écrire des nouvelles pages mémoire, mais tu ne peux pas les exécuter. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de crash dans VLC, ça crash VLC. Être capable d'exécuter du code, c'est une autre paire de manches. Et quand tu vas dans des gros softs comme Chrome, t'as, en fait, quand tu regardes les exploits de Pwn to Own, là, qui sont les grands trucs, puis tu te rends compte qu'en fait, ils chainent 1, 2, 3, 4 failles de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une faille de sécurité qui exécute, ouais, mais c'est dans la sandbox, après, t'as un sandbox escaping de la sandbox VM qui leur permet de faire un off by one, mais en fait, comme ils écrivent ça, ils font ça en boucle avec une boucle JavaScript, ça permet d'écrire, etc. Et puis ensuite, ils sortent de la sandbox de Chrome pour aller sur le driver graphique. Enfin, tu vois, aujourd'hui, l'exploitation de failles de sécurité, il y a plusieurs boîtes en France qui sont des espèces de tueurs, qui sont des gens absolument incroyables et qui sont capables de lier beaucoup de failles. Donc en fait, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que quand t'as des failles, bah tu patches. Parce que tu sais pas. Souvent la faille...
Si combinée avec d'autres, elle pourrait pas permettre de faire
des trucs. Tu vois, la plupart graves. Des... Tu vois, sur les 10 dernières années, des failles sur VLC que je sais sont vraiment dangereuses, t'en as 4 ou 5, quoi.
Ouais, ok.
Alors, mais par contre, nous, on est open source, et nous, c'est better safe than sorry. Il y a une faille, on patche.
Okay. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Est-ce que tu as déjà constaté que VLC était utilisé, enfin était détourné de son utilisation originelle?
Oui.
Donc on sait que c'est absolument partout, on sait que VLC est gratuit, on sait que c'est utilisé comme un player vidéo. On sait qu'il y a même plein de features cachées qui ne sont pas des features de plusieurs vidéos. Est-ce que tu as déjà constaté que VLC était détourné de ce pourquoi il a été fait?
Plein de fois.
Et c'était pourquoi?
Alors, donc là, il y a trois histoires un peu connues autour de VLC. La première, c'est la CIA qui a utilisé, donc c'est une faille, enfin c'est un groupe de tools de hacking qui s'appelait Vault 7, qui est sorti à l'époque de Wikileaks, qu'on a retrouvé après Wikileaks. Et en fait, c'était une version de VLC qui avait quelques petites fonctionnalités supplémentaires. cette fonctionnalité, notamment, elle, pendant que tu avais téléchargé un VLC qui n'était pas le même VLC, mais tu double-cliques, tu vois, c'est signé par Videolan, dans le About, c'est un VLC, ça a l'air cool, quoi. Donc, ça marche, c'est les mêmes films que tu regardes. Sauf qu'en fait, il lisait tes documents dans ton home ou dans ton dossier document, ça les lisait, ça les chiffrait, ça les envoyait sur le serveur de la CIA. Et toi, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu vois, tu regardes un film, c'est normal que ton CPU, tu vois, il commence un peu à faire un peu, tu vois, t'as un peu de bruit, ça fait vous,
c'est pas grave. Faut-il encore se de.
Ouais, et puis en plus, il y a du son, etc.
Soucier de ça quand. Il y a peu de gens qui soucient de ça, quoi.
Ouais, mais donc ça a permis, en fait, de faire du targeting de certaines personnalités qui ont eu donc un faux VLC. Voilà. Et donc là, c'était de l'injection de DLL. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements sur l'injection de DLL dans VLC.
Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, injecter une DLL? Parce que ça paraît assez jargonneux, tout ça.
Je ne sais pas ce que c'est, personne.
Ok, donc en fait, quand tu fais... Les programmes aujourd'hui, ils sont monstrueusement gros. Mm. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu utilises des bibliothèques. Ouais. Donc, par exemple, tu ne vas pas aujourd'hui écrire... du code pour afficher à l'écran. Tu vas utiliser une DLL qui va te permettre d'afficher des boutons et des choses comme ça. Donc en fait, tu utilises plein de bibliothèques et c'est des bibliothèques que tu, à l'origine, étaient tout dans le même programme. Mais en fait, sinon, ça consomme notamment des fonctionnalités optionnelles et donc tu as ce qu'on appelle des bibliothèques qui sont chargées dynamiquement.
D'accord.
Ça s'appelle des DLL, Dynamic Load Library. Sous Mac, ça s'appelle des DLib. Bref, c'est une façon de charger du code supplémentaire. Dans VLC, en fait, comme il y a énormément de features dans VLC, je ne charge pas toutes les dans VLC, j'exploserai ta RAM. Il y a peut-être 500 ou 600 modules et tous les modules sont des DLL.
D'accord. Voilà.
Et donc, à un moment où tu as besoin de MP4, en fait, je schématise, mais en fait, tu charges le bon truc.
C'est ça, exactement. Sauf qu'en fait, beaucoup de fonctionnalités de VLC, par exemple, vont dépendre de ton driver. Donc en fait, ton module de VLC, il charge une autre DLL. Donc tu as une DLL qui charge une autre DLL. Et ça, c'est des DLL système. Et la façon dont sont chargées les bibliothèques, les DLL sur Windows, c'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. C'est hérité des années de Windows 3.1. Et si tu ne cèdes pas quelques paramètres, il fait n'importe quoi. Et notamment, il charge la DLL à côté du fichier vidéo, alors qu'il ne devrait pas. Et avant de charger la bibliothèque système. Et ça, c'est une faille de sécurité qui est dans quasiment qui est dans tous les softs un peu petits.
Donc ce que tu veux dire, c'est que par exemple, si VLC il charge user.dll qui est censé être dans système 32,
ouais. et qu'en fait à côté de ton fichier .mp4, t'as écrit user.dll, il va commencer par charger celle-là et donc co-exécution.
Oh, c'est cool,
et donc
ça.
Tu peux mettre ce que tu veux là-dedans et c'est terminé quoi.
Voilà, donc ça c'est la version la plus simple. Là, le cas de Vault 7, c'était un truc un peu plus compliqué, mais c'est la même idée.
Okay.
C'est-à-dire qu'en fait, tu fais charger une bibliothèque qui est censée être chargée. Mais donc, il n'y a aucune modification de VLC, donc c'est hyper insidieux. C'est-à-dire que ça utilise le fait que VLC... Alors, cette faille de chargement de DLL, elle a été exploitée sur tous les logiciels que tu connais. Je pense qu'il n'y a pas un seul logiciel que tu connais qui n'a pas eu ce problème.
Wow. Et donc là,
c'est la CIA.
Comment est-ce que vous avez découvert ça exactement?
Et quand il y a eu les trucs de WikiLeaks avec Assange, et puis à un moment, donc on cherche VLC, puis on voit, il y avait deux sujets. Il y avait le sujet justement de Vault 7 de la CIA. Il y avait un autre sujet sur Sony et les DRM Blu-ray. Voilà, mais c'est pas le sujet aujourd'hui.
Et t'as réagi comment toi quand t'as découvert que c'est un peu ton bébé quand même VLC?
Ouais, bah c'est la vie, hein.
Bah attends, je sais pas, t'as ton truc qui est utilisé par la CIA pour faire des infections de la surveillance, c'est quand même dingue.
En fait, il faut que tu te dises en sécurité, et c'est ça que les gens ne comprennent pas en fait en sécurité, c'est que la vraie question, c'est ce qu'on appelle ton threat model. La première chose que tu fais en sécurité, un consultant à peu près sérieux en sécurité, c'est contre qui tu te défends. Tu vois ? Parce que il est impossible d'avoir 100% de sécurité. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. La question, c'est contre qui tu te bats. Et ça, c'est le vrai sujet. Et donc, ton threat model à toi, mon threat model à moi, ou le threat model de Snowden, c'est quand même pas la même chose. Et si les gens contre qui tu te bats, c'est la CIA, le FBI, ou d'autres agences gouvernementales, des Five Eyes ou de la Chine, de toute façon, tu as perdu. Ils ont des ressources qui sont infinies, tu ne gagneras jamais. Donc, sinon, il faut que tu le saches, bon, tu l'acceptes. Donc ça, c'est pas le truc qui m'a le plus gêné comme faille de sécurité.
Genre, par exemple, est-ce que tu peux porter plainte contre la CIA?
Non.
Personne ne fait ça.
D'abord, en fait, ils n'ont pas.
Je sais pas, moi, tu sais, je me pose la question.
Une vie à consacrer, quoi.
Tu noteras qu'ils n'ont pas attaqué VLC.
Ouais.
Ils ont diffusé des fausses versions de VLC, c'est quand même pas pareil. Par contre, là, il y a une deuxième attaque qui nous est arrivée, une deuxième histoire, qui, elle, était plus gênante.
Qui était?
Alors, en fait, donc... Le cœur de la diffusion de VLC, c'est un FTP hein, à l'ancienne, dans lequel il y a tous les binaires.
Un serveur de fichiers, du coup.
Serveur de fichiers. Et en fait, il y a des miroirs qui vont télécharger par AirSync. Voilà. Donc, c'est un serveur de fichiers, quoi. Et c'est là où tu vois toutes les versions de VLC depuis le début. Et dans le serveur de fichiers, il y a un dossier qui s'appelle Linkoming où tu peux envoyer des fichiers. Donc on s'en sert pour recevoir des films cassés, on s'en sert pour certains scripts, etc. Et régulièrement, on reçoit des choses un peu bizarres dans ce dossier. Alors, tu penses bien que niveau sécurité, en fait, ce dossier, il n'est même pas dans le même conteneur que le FTP principal. Mais ça, on ne le dit pas.
Ah ouais.
Et donc, on reçoit souvent plein de trucs. Alors, j'ai reçu vraiment tout et n'importe quoi, des choses que j'ai du mal à m'enlever des yeux. mais c'est pas le sujet. Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'un jour, on a reçu un binaire qui ressemblait à VLC, qui était un peu modifié. Parce que ça ne me ressemblait pas, c'était moi qui étais censé faire la build, je reçois un truc Windows. Mais contrairement au cas de la CIA qui avait diffusé des VLC avec des zips, donc tu vois, ils rajoutent une DLL, ils refont le zip, personne ne voit. Là, c'était l'installeur de VLC qui était modifié. Et normalement, l'installeur de VLC, il est chiffré avec une signature qui est sur une clé hardware, une sorte de YubiKey, donc un truc que tu peux pas... Et qui est difficile à trouver. C'est-à-dire que si tu sais pas où elle est, tu vas galérer. Quoi. Il faudrait aller chez moi ou à d'autres endroits pour avoir cette clé. Et donc, c'est comme ça qu'on fait que les releases de VLC, en fait... pour qu'elles soient
certifiées, quoi.
Pour qu'elles soient signées.
À contrefaire, en fait. Ouais.
Non, c'est possible, mais il faut avoir vraiment, vraiment beaucoup de compétences. Bref, on reçoit donc un binaire qui est un installeur, et là, quand je le teste, je vois que c'est signé par Videolan. Et là, en fait, tu te rends compte que c'était pas vraiment Videolan. C'était Videolan, mais le A, il était pas bon, etc. Mais ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui avait l'accès à une chaîne de certificats, ou qui avait eu le droit de faire, parce que c'est des certificats qu'on appelle Authenticode par Microsoft. Donc, c'est un peu gênant quand même d'avoir ça. Les binaires étaient modifiés, mais j'ai jamais vraiment eu le temps de regarder ce qu'il y avait. Mais ça m'a gêné beaucoup plus, parce que ça, c'était en fait une attaque sur notre infrastructure.
C'est
un faux VLC envoyé sur notre infrastructure. Et à côté, il y avait un fichier PHP, comme si on exécutait le fichier PHP de notre FTP. Alors, c'était vraiment, d'un côté, c'était hyper sophistiqué parce qu'ils ont dû avoir vraiment une difficulté pour avoir cette bonne signature. Et de l'autre côté, l'attaque, elle était nulle, quoi. J'étais même déçu, quoi.
Mieux faire.
T'as l'identité du gars du Incomin quand il dépose quelque chose? Non, rien du tout.
Donc, je ne sais pas.
Peut-être en passant par Microsoft. Ouais.
Non, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'était des certificats que t'achètes chez DigiCert, etc. Ouais. Donc, bon, bref. Mais je me suis dit quand même que pour être capable de faire ça, il fallait avoir du moyen, envoyer des moyens. Mais je ne sais pas qui c'est.
Et donc, on peut imaginer que l'objectif, c'était d'avoir cette version de VLC sur vos serveurs, qui sont ça fait un peu légitime.
Et puis là, t'as quand même, enfin, tu vois, par exemple, la version 3.0.16 de VLC, elle a quand même été téléchargée 410 millions de fois sur une version. Ça fait quand même du monde qui peut avoir un binaire. Donc, tu vois, la sécurité, en fait, elle vient du tout début, de faire attention à ce qui rentre dans ton code, comment tu le builds, mais aussi comment tu le diffuses. Et la partie diffusion, tu vois, c'est de l'infra, c'est quand même moins rigolo que coder un truc, quoi. Donc voilà, donc on a eu ça qui était un sac, et ça m'a plus gêné, tu vois, ça m'a plus gêné, je suis allé porter plainte.
Ah, voilà. Pas contre la CIA, mais là, c'est plus faisable.
Je suis allé porter plainte deux fois auprès de la gendarmerie nationale. Une fois pour ça, une fois, c'est quand on s'était pris une attaque en DOS. Bon, c'est encore une autre histoire qui était... Mais tu vois, pareil, on a eu une attaque DOS et qui était clairement envoyée de la Chine. On en a eu deux, d'ailleurs.
Ça peut servir.
Alors, la première, on ne sait pas vraiment ce que c'est pour nous embêter ou pas. Mais la deuxième, c'est quand on a banni les téléphones Huawei de la version Android. Très bizarrement, une semaine après, on a eu des attaques qui venaient de China Telecom. Mais genre
direct. C'est des gamins de ouf.
Je ne sais pas si c'est des gamins, mais en tout cas, ça. Voilà. Et la première fois, le premier DOS, on allait porter plainte. Et là, cette histoire de faux binaire, je suis allé porter plainte. Voilà, ça, c'est les trucs de faille de sécu, enfin, d'histoire de sécurité un peu rigolote. La dernière, elle m'a encore moins fait rigoler parce qu'elle était plus récente, c'est l'Inde, qui doit être un des plus gros utilisateurs de VLC, a décidé de bannir VLC.
Ah ouais?
Et donc pendant quasiment un an, t'allais sur le videolan.org et c'était interdit, c'est truc des télécoms, c'est le truc comme si ce qu'on avait fait était gravissime. Et en fait, on a regardé, en fait, c'est des pirates de Cicada, qui sont un groupe de hackers chinois probablement sponsorisés par le gouvernement, qui ont utilisé le nom de la libvlc.dll, mais en utilisant vlc.exe, mais tout le derrière, ça n'avait rien à voir. Et comme ils avaient fait un faux installeur, ils avaient comme. Tu sais, il y a beaucoup de fights entre l'Inde et la Chine, et donc ils avaient réussi à faire ça. Et donc là, ça a été un. Voilà, exactement, la violation. Et alors là, ça a été d'une complexité, parce que, évidemment, c'est un office complètement incompétent indien avec la bureaucratie indienne qui a l'air d'être quand même sacrément chaude. Et là, ça a fini. J'ai attaqué le gouvernement indien en justice à Delhi, quoi, pour avoir. Et là, quand on y allait, on avait des avocats indiens, etc. Bon, on les a fait flipper. Et donc, ils ont fait ouais, attends, on va faire une re-review, etc. Et finalement, ils ont enlevé le ban. Ça nous a pris un temps infini. Et on a été aidé par une sorte de UCLA, enfin, qui est vraiment une Freedom Internet en Inde, qui nous ont fait un travail de dingue. Ça a été vraiment, parce que l'Inde et la Chine, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment chaud, hein. C'est-à-dire qu'ils se fritent quand même, hein. Et avec le gouvernement Modi, ils sont quand même pas rigolo. Et d'ailleurs, régulièrement. Et donc, en fait, on était dans la liste des sites à bannir, exprimés par le ministère de télécom indien.
Tout ça, Pau, parce que, en fait,
différent. Ouais. Non, ils ont pris des binaires de VLC. Donc, ils ont pris une partie des binaires de VLC, VLC.exe, libvlc core, etc. Et donc, en fait, Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ce qui est très classique, c'est qu'il y a beaucoup d'antivirus, quand ils voient VLC.exe, en fait, ils whitelist, parce que c'est des gros nuls. Et en particulier, parce qu'en fait, très régulièrement, à chaque fois qu'on a une nouvelle release de VLC, on reçoit à peu près 1,5 million d'emails, nous disant, oui, j'ai cet antivirus qui dit qu'on est méchant. Et effectivement, parce que comment tu fais de l'assembleur, comme on a déjà parlé, oui. En fait, tu ressembles un peu à des virus, à des worms, etc. Donc en fait, c'est toujours du code un peu bizarre. Résultat, en fait, nous, on a des accords avec pas mal de fabricants d'antivirus qui viennent scanner un peu notre FTP, à qui on dit, etc. Donc c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus dangereux.
Mettre un tampon, c'est bon, validé.
Mais donc parfois, donc ça c'est les plus malins, hein, ils regardent juste VLC.exe, puis t'as un VLC.exe avec les cônes VLC, donc tu t'inquiètes pas, qui tourne, oh, c'est pas très grave. Et puis tu vois, il y a plein d'organisations qui utilisent VLC à peu près partout.
Mais du coup, si je sors un logiciel qui s'appelle VLC.exe, il y a des chances que je sois whitelisté par les antivirus.
Ouais.
Sympa.
Mais tu vois, par exemple, à un moment, on avait un bug débile des drivers NVIDIA qui n'avaient pas compris ce qu'on faisait. Donc, ça a été hyper long. Et si, en fait, tu avais des trucs sur VLC.exe, ça marchait moins bien que tu renommais ton VLC en VLC2.exe et ça marchait mieux. Et c'est même pas une blague.
Ah, waouh.
C'est dingue.
Ouais, c'est clair. La validation vraiment niveau 1, quoi.
En tout cas, tu peux cocher dans ta bucket list que tu as poursuivi le gouvernement indien, ce qui est quand même dingue.
Donc, j'ai finalement, j'ai pas posé la plainte, mais je leur avais préparé la plainte. On a préparé un doc qui fait 70 pages. On l'a renvoyé, tout était prêt, etc. Et donc, ils flippent un peu quand j'envoie les mails. Ils me disent, on fait un call. Et je pense que et le call commence. Je l'ai enregistré le début du call. Ils commencent à m'interdire de venir avec les avocats. Et j'ai dit, écoutez, pendant 20 minutes, on se bat. Finalement, on a accepté de ne pas avoir nos avocats. Mais moi, je commence à dire, ma première phrase quand les avocats partent, c'est « Je trouve qu'il est inadmissible. D'ailleurs, je viens à votre bureau lundi prochain. » J'avais mes billets d'avion. Je leur ai dit que j'avais mes billets d'avion pour venir déposer ma plainte en personne.
J'aurais peur, moi, d'arriver tout seul comme ça en Inde.
J'ai l'impression d'y aller, mais je ne veux pas.
C'est rigolo.
Ça a marché.
Ceci étant dit, c'est quand même assez gênant. Parce que évidemment aller se prémunir contre des attaques comme ça où il y a le VLC.exe et la libVLC qui sont utilisés à des mauvais escients, on commence à... J'ai des solutions pour régler ça, mais c'est quand même pas très rigolo.
Mais surtout, moi, ce que je trouve quand même dingue, c'est de voir la mesure des attaques et des détournements de VLC que vous subissez mis en face du fait que vous êtes une asso.
Alors en fait, et là, je pense que ce que tu pointes du doigt, c'est la bonne question. C'est pourquoi est-ce qu'on se mettrait à attaquer VLC ? Et en fait, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, tu fais tourner aucun logiciel sur ton PC. Tu fais tourner ton navigateur, tu fais tourner Office, Word, etc. à peu près, ton lecteur PDF, ton lecteur d'image, même plus, il est intégré dans l'OS. Et ensuite, 1743 versions de Chrome dans Electron. Et après, tu as ton lecteur vidéo. Donc, en fait, il y a de moins en moins d'applis que tu fais vraiment tourner en natif. Et les mecs de Chrome, tu vois, Chrome, c'est peut-être 2 à 3 000 fois plus de personnes qui bossent sur VLC. Et ils ont vraiment travaillé, ils ont un système de sandboxing qui est très évolué, ils font, etc. Ils font énormément de travail. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et puis surtout, c'est le truc le plus étudié. Tout le monde a essayé d'attaquer Chrome. Donc, tu prends Chrome. Évidemment, Microsoft avec Office, c'est aussi des applications qui sont super sécurisées. Je pense que c'est un peu moins bien que Chrome, mais il y a quand même beaucoup de travail. Et surtout, ils ont des choses qui sont préchargées dans Windows, qui sont whitelistées dans Windows. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc, ensuite, tu arrives sur quoi ? Des lecteurs d'images, des lecteurs PDF. Adobe Reader, on en a parlé, mais maintenant, Adobe Reader utilise une partie de la sandbox de Chrome. Firefox utilise une partie de la sandbox de Chrome, ce qu'ils n'ont pas réussi à en développer. Et donc, en fait, tu vas les trouver sur...
Il y a Chrome et VLC.
Des petites... Et en fait, tu vas regarder, en fait, tu vas descendre dans la liste des logiciels les plus utilisés, et VLC, ça va être dans le top 20 des utilisés. Et là, tu te rends compte que quand même, on est 10, quoi. 10, 12 à bosser sur VLC. Donc, tu vois, tu dis bien qu'on n'a pas...
C'est une bonne cible, en fait.
Ouais, alors, en fait, ce qui est... Voilà, donc c'est une bonne cible, et c'est normal. Et en fait, après, nous, on est quand même techniquement relativement bon, et quand on discute pas mal avec les gens qui font la sécurité informatique, quand on leur dit tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait de l'analyse statique, on fait de l'analyse dynamique, tout est signé, on active la SLR, on a l'entreprise LSR, on fait DAP, Nginx, etc. Le truc est signé, le truc est contre-signé. On a notre système de signature, il utilise des YubiKey qui sont offline. On utilise, on a des clés GPG, tout ça, ça a été envoyé sur du Web of Trust, etc. On fait notre infra, elle est hyper, enfin tu vois par exemple notre infra, notre site web il est statique, tout est conteneurisé, etc. Donc on n'est pas, même si on a l'air tout gentil, etc., on fait quand même hyper attention. Et donc, les politiques de sécurité, les mecs te disent « Ok, ok, ils ne font pas complètement n'importe quoi. » Maintenant, C'est sûr que, par exemple, dans VLC, on charge beaucoup de bibliothèques. Tu vois, VLC, le code VLC, c'est 1 million de lignes de code, mais on compile 16 millions. La plupart du code qui tourne VLC n'a pas été écrit par nous. Donc, c'est sûr que, tu vois, il y a déjà un problème. Et le deuxième problème, c'est que, notamment, on fait beaucoup de choses donc, en audio et en vidéo. Et donc, une partie du code, c'est la stack OpenGL du driver, mais qui tourne dans ton process. Donc, tu vois, là, tu as un vrai problème, c'est que tu ne peux pas faire confiance à ta propre application, puisque, en fait, tourne dans l'espace de mémoire de ton application quelque chose que tu n'as pas fait.
Donc, en gros, pour résumer, c'est que c'est comme si tu développais un logiciel et qu'une de tes dépendances les plus importantes, eh ben, elle dépendait du constructeur du hardware qui développe un driver auquel tu ne peux pas faire grand-chose et juste il est là et il peut être exploité, quoi.
Exactement.
Eh ben, quel travail.
Et donc, normalement, ta question d'après, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Bah oui, qu'est-ce qu'on fait?
Non, la seule réponse... Donc, il y a une première partie qui est de dire « Ok, on va tout scanner, on va avoir aucune faille de sécurité. » Je viens de te prouver que c'était nécessaire, mais c'est clairement pas suffisant. L'autre travail qu'il faut faire, c'est donc faire du sandboxing de VLC. C'est un projet sur lequel on bosse depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et en fait, sandboxer VLC, ça veut dire que quand tu vas crasher, ça va pas être très grave parce que tu peux pas faire grand-chose. C'est ce qu'a fait Chrome. Sauf que le problème de Chrome, c'est que la plupart du temps, Chrome, il gère tu vois, des fichiers HTML de allez, une grosse page HTML, 5 mégas, 10 mégas. VLC, c'est quand même capable de lire des flux à 250 mégabits secondes. Et donc, faire une sandbox pour de la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, tu noteras que, évidemment, Chrome sait lire de la vidéo, beaucoup moins de format que VLC, évidemment, mais qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont là sur la partie graphique de Chrome, de faille de sécurité, à raison, parce que c'est évidemment la partie qui est le plus difficile à sandboxer. Mais en ce moment, nous, on travaille là-dessus, avec de l'aide et des subventions de l'État français. Hein,
okay.
Vraiment.
Je savais pas.
Non, très très cool. Et donc, on est en train de mettre en place une sandbox, qui est une multi-sandbox dans VLC. Et c'est très difficile à... Aujourd'hui, c'est très difficile de faire des sandbox. Chrome, si tu exagères un peu, Chrome, ils ont d'abord construit une sandbox, et ensuite, ils ont construit leur navigateur. Les premières versions de Chrome, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien, et c'est une sandbox. Et en fait, rétrofitter, donc rajouter une sandbox dans un logiciel
fin,
compliqué...
C'est très dur.
C'est très dur. Mais on va y arriver, mais c'est une question de temps, et c'est surtout une question de moyens.
Mm. Est-ce qu'en fait, tu me dis si c'est pas du tout le cas, mais...
C'est pas du tout le cas.
Est-ce qu'il y a une sorte de balance entre performance...
Toujours, évidemment.
Et sécurité et sandbox.
Donc en fait, c'est le problème de la sécurité informatique en général, c'est que, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu demandes aux gens de changer leur mot de passe tous les 6 mois. Bon, tous les 6 mois, ils le font. Bon, ok, c'est un peu embêtant, ils l'utilisent, etc. Tu leur demandes de faire toutes les 3 semaines. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent le mot de passe, il est collé post-it. Donc ça veut dire qu'un attaquant, c'est encore plus facile. Donc en fait, il faut faire attention à ce que la sécurité ne soit pas embêtante pour l'utilisateur. Si elle l'est, l'utilisateur, il va contourner. Tu vois, c'était le truc de Windows Vista au début. Tu sais, t'avais une pop-up UAC jaune à chaque fois. Donc, qu'est-ce que t'as fait? Clique, oui.
Ouais, t'acceptes tout, quoi.
Et tout le monde a oublié qu'en fait, c'est important.
Et sur Android, les permissions sur Android, un enfer. Résultat, t'acceptes tout.
Ouais.
Et tu veux avoir le truc. Donc, il faut être capable de faire de la sécurité sans embêter l'utilisateur et en ayant une perte de performance qui doit se mesurer en 1 ou 2%. Au-delà, c'est mort.
Juste par curiosité, parce que je sais plus si tu m'avais parlé de ça, est-ce que, donc là on a parlé des détournements de VLC en tant que tel, mais est-ce que vous, la structure VLC, comme type d'attaque, est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives en utilisant justement le processus, peut-être du fait que c'est open source, de s'introduire par exemple sur des machines de développeurs ou des choses comme ça?
C'est marrant, je t'en ai jamais parlé.
Peut-être que tu m'en as parlé, que ça...
J'ai deux histoires comme ça. La première, c'est que... Donc tu verras, je me dépasse rarement sur mon ordi. Je suis un peu parano là-dessus. Et puis, mon ordi, en fait, tu peux rien faire dessus parce que... c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il n'est jamais loin de moi. Et ça m'est arrivé une fois en conf. J'étais en train de parler. Et je vois quelqu'un qui prend mon laptop et qui met une clé USB.
Ah ouais.
Et c'était clairement pas une erreur, quoi.
What?
Et je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais rien faire. Donc là, c'était clairement une tentative d'intrusion sur mon ordinateur. Donc voilà, donc ça, c'est déjà pas très cool.
Mais qui n'était pas déverrouillé.
Un ordinateur, c'est toujours verrouillé. Hein,
tu sais. Mais je sais pas.
Quand tes mains quittent ton ordinateur, l'ordinateur est verrouillé. On est d'accord, hein, c'est comme oui, ça, c'est comme ça pour 100% des gens.
Non, mais on est d'accord, évidemment, tout le monde.
Voilà.
Et il est où ton ordi, là? Sur la pièce d'à côté.
L'ordi, il est dans la pièce d'à côté, et puis tu peux savoir qu'il est éteint exprès, parce que là, il va être à plus de 5 mètres de moi.
Ouais.
Mais je dis ça parce que ça peut arriver sur des conférences, des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, tu la setup avec tes slides et tu quittes des yeux 10 secondes.
Voilà, donc j'ai eu ce cas d'attaque. Je crois que c'est le cas d'attaque qui fait le plus rigoler. J'ai quelqu'un qui bosse avec nous pour faire de l'administration. Elle se la fait hurler de rire, cette histoire, elle la raconte tout le temps. J'ai une autre histoire qui était un petit peu moins rigolote.
Je peux te couper?
Je dis bien sûr tout.
Le gars, tu l'as vu faire.
Ouais.
Et c'est la fin de l'histoire.
Mais tu veux que je fasse quoi? Je suis en train de faire un talk. Je finis mon talk.
Il est branché, il est reparti, tu l'as vu.
Il est branché, j'ai vu qu'il n'a pas réussi à faire son truc. J'essaye de sortir et le mec était parti.
Oh.
Et il n'y avait pas
de. Non, t'as oublié.
Il n'y a pas des caméras.
Tu sais, c'est comme ici, là, t'as 28 milliards,
ouais, bien sûr.
Complètement aveugle, parce que là, il faut avoir de la bonne lumière.
Le mec, il disparaît dans l'ombre et tout.
Mais c'est bizarre. Ouais,
c'est bizarre. Bien. Est-ce qu'il s'est planté? Tu vois, j'ai un ThinkPad X1 Carbone, c'est un truc classique.
Ça se trouve, c'est vrai.
C'est juste une erreur. Je te laisse interpréter. Je ne dirai pas ce qui s'est passé. J'ai une autre histoire qui est encore moins. Enfin, qui m'a. C'était une bonne leçon. En fait, tu sais, en général, quand. Des gens qui disent que tu as une faille de sécurité, j'en ai une par semaine. Et en général, la réponse, c'est donne-moi la preuve ou par toi. Toi, c'est comme GTFO, quoi. Voilà. Donc, soit tu as une preuve que ça, effectivement, il y a une faille de sécurité. Donc, en général, souvent, les gens un peu bons, ils te disent pourquoi et surtout, ils te donnent un fichier. Et classiquement, notamment quand tu veux montrer qu'il y a une exécution, tu exécutes calc.exe. Donc, tu vois, la calculatrice, ça, c'est le truc classique, c'est que tu montres qu'effectivement, tu es capable d'avoir un fichier, de faire une remote exécution, puisque tu lances la calculatrice.
Okay.
Et ça, c'est toujours été, ça a été le standard, voilà, on lance la calculatrice de tous les mecs de sécurité. Et une fois, on a reçu une faille de sécurité de quelqu'un, et en fait, c'est un script. Donc, souvent aussi, tu as des scripts Python, tu lances le script Python. Et en fait, au lieu de faire exec cal, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait lire dans le point SSH la clé privée IDRSA, et dans le point GPG, la clé privée GPG. Et il l'envoyait sur un serveur distant.
C'est un piège.
Alors attention, pour expliquer ce que ça veut dire.
Le script, il était censé démontrer que le gars avait trouvé une faille d'un VLC.
Exactement.
Donc c'est un truc que tu exécuterais toi sur ta machine de
développeur. En tant que développeur.
Ouais.
Et donc là, en fait, à la fin, effectivement, il y avait une exploitation, etc. Et sauf qu'au lieu de faire exec calc, il faisait lire le fichier à cet endroit-là et envoyer sur un serveur distant. Et évidemment, c'est la clé de privée de signature de moi, pas celle de Videolan, mais de moi.
Alors, pour expliquer, qu'est-ce qu'on fait avec une clé de ce genre?
En fait, tu peux te faire passer pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux envoyer des messages en disant c'est bien JB, je dis qu'il faut faire ça, quoi. Voilà.
C'est pas le gars qui a mis sur le repo le faux.
C'est le même.
De tout à l'heure.
C'est le même gars.
Ça, je sais rien.
Il a level up entre temps.
Ouais.
Il se trouve que, effectivement, donc, ça, c'était totalement ma faute. Il se trouve que je l'ai testé sur un laptop qui était tout neuf et donc il n'y avait pas mes clés privées. Donc, en fait, ça n'a rien fait. Mais depuis ce jour-là, donc c'est une bonne question de chance. Depuis ce jour-là, en fait, quand on télécharge des failles de sécurité, on fait ça dans un ordinateur jetable, une VM qui ne fait que ça. Parce que, effectivement, donc là, voilà, c'est deux tentatives d'intrusion qui étaient clairement. Alors, une clairement attaquant un des développeurs de VLC, sachant qu'il ne savait pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre. L'autre, je vous laisse décider.
On n'est pas sûr. Mais c'est quand même pas rassurant parce que. Bon, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça paraît raisonnable que si quelqu'un que tu connais pas envoie un script, de le lancer sur une machine dédiée. Ouais. Mais je trouve que c'est le genre de truc où ta vigilance peut baisser. Il y a quelqu'un, il est sympa, il te dit qu'il y a un bug à un endroit, il t'envoie le fichier tout propre comme d'habitude.
Ouais.
T'as trop envie de. Enfin, voilà, ça paraît simple.
Et puis c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je fais. Enfin, le mindset sécurité a quand même pas mal évolué. Mais ouais.
Mais surtout, donc là, tu parlais de la clé GPG, la clé SSH, ça veut dire qu'il aurait pu accéder à n'importe quel serveur aussi.
Non, parce que, attends, quand même, avec ma clé privée, il faut quand même que tu as ma passphrase. Hein.
Oui, évidemment.
Quand même, je suis quand même pas complètement débile. Mais ça veut dire quand même que.
Il a fait la moitié du chemin, on va dire.
Ouais, après, il faut trouver mon mot de passe qui est un mot de passe qui est. Parce que les mots de passe de passphrase, c'est des clés. Tu vois, on n'est pas à 14 caractères ou 22, hein, on est quand même à beaucoup plus. Mais bon, tu vois.
Pas rassurant.
Voilà. En fait, c'est toi, c'est comme cette histoire. Enfin, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est rassurant? Bon, tu vois. Alors, sauf que nous.
En fait, toi, tu t'es habitué. Mais en vrai, là, moi, je me.
En fait,
si je devais être constamment sur mes vigilances en mode.
Mais dis-toi
le cas, en vrai.
Mais... Dis-toi que ça, c'est ce que tu entends de VLC, parce que moi, je suis assez ouvert. Je raconte tout ce qui se passe. Tu me poses des questions, puis je suis hyper franc, je suis hyper direct. imagine ce qui se passe sur tous les logiciels propriétaires qui coûtent des fortunes. Bah, tu vois, par exemple, installe Photoshop, regarde ce que ça installe. Ça installe la planète entière sur ton ordinateur. Regarde ce que fait Zoom. Tu vois, par exemple, Zoom, ça te demande, sous Mac, ça a lancé un script qui était en route pour faire plein de trucs et tu avais un process qui tourne en route. Donc, en plus, quand tu exploites un Zoom qui fait de la vidéo, quand tu le crashes, t'étais administrateur de la machine. Tu vois. Donc, voilà. La sécurité informatique, c'est difficile.
J'aimerais bien, je vois dans le chat, en vérité, si JB pétait les plombs et décidait d'écrire lui-même du code malveillant, il pourrait tuer Internet.
Vers la fin, il fera ça.
Pas du tout.
Donc, seconde carrière de JB.
Donc pas du tout, en fait. Je suis pas très... Enfin, aujourd'hui, écrire du code malveillant, ça demande pas mal de skillset. Je pense que je les ai plus. Je me suis jamais posé cette question. Moi, quand j'ai fait des trucs qui étaient un peu limite légalement, c'était dans...
Ça date.
C'était dans les années 90, donc ouais, c'est
Je vous propose, sans plus attendre, c'était vraiment hyper intéressant.
Ouais, très intéressant.
Tu connaissais toutes ces anecdotes sur VLC?
Bien sûr que non.
Évidemment. Non, franchement,
je crois qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ces histoires, hein, parce que je les raconte jamais. Hein. Cool. C'est juste parce que c'est toi, donc là, j'ai fait.
Trop bien,
c'est un niveau de détente, mais ça a l'air d'être une vie assez angoissante quand même.
Bah, franchement, vraiment. C'est des responsabilités de fou, ouais. Quoi.
Bah, tu fais gaffe.
Mais tu t'y habitues maintenant. T'as de la bouteille, quoi.
Tu m'as pas posé une question intéressante?
Bah, je t'en prie.
Est-ce que les services secrets français sont venus maintenant?
Bah, j'avoue.
Eh ouais, c'est la question. On parle des étrangers.
On a parlé de la CIA, mais est-ce qu'effectivement la DGSE, les services français, t'ont déjà contacté?
Je peux pas répondre à cette question.
Juste pour ça. Albata.
C'est bon, le TikTok est dans la boîte.
Ça, je le voulais, ça là. Ah, c'est marrant. Non, parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'à partir d'un certain montant.
Non mais en fait c'est pas ça, c'est
d'accepter un truc comme ça.
Tu vois, ça c'est que en fait je suis quand même citoyen français, j'ai des obligations par rapport au gouvernement français que je n'ai pas dans d'autres pays quand même.
OK.
Et du coup je sais pas si jamais ça arriverait, tu prendrais conseil ou j'imagine hein,
tu me connais, je suis quand même une tête de mule hein.